Oscar Miloche, Contes et fabliaux de la vieille Lituanie. La reine des serpents. Il était une fois dans la nuit des temps un vieux et une vieille. Ils avaient 12 fils et 3 filles, dont la plus jeune se nommait Aiglé-Sapin. Un soir d'été, les 3 sœurs allèrent se baigner dans un lac dont la maison de leurs parents était voisine. Après avoir longtemps troublé de leurs ébats le sommeil des eaux, elles regagnèrent la rive pour y prendre leurs vêtements. Tout à coup, et à son grand effroi, la cadette s'aperçoit qu'un serpent s'est glissé dans une manche de sa tunique. L'aînée s'arme d'un bâton et veut chasser l'animal. Mais le serpent, levant la tête vers Aiglé, lui adresse d'une petite voix humaine ces paroles. « Jeune fille, promets-moi de m'épouser et je quitte sur le champ ces lieux. » La pauvrette, de plus en plus effarée, s'écrie « Oh non, mille fois non, je ne serai jamais la femme d'un serpent. Rends-moi bien vite ma tunique et laisse-nous en paix. » Le serpent, indiscret comme un vrai petit homme, revient à la charge. « Donne-moi seulement ta parole et je m'éloigne comme je suis venue. » Le débat se prolongeant outre mesure, la petite Aiglée, de guerre lasse, se laisse arracher la promesse. Aussitôt, le serpent sort de la manche et disparaît dans l'herbe haute et touffue. 2 jours se passent dans une parfaite tranquillité. Mais le 3e n'était pas encore à son déclin qu'une multitude de serpents, venus de toutes les directions, envahissaient la cour de la maison et jetaient l'épouvante dans le cœur des grands et des petits. Les reptiles étaient si nombreux que leurs grouillements semblaient déferler en vagues. Ils en sortaient par centaines, de tous les coins et recoins, ainsi que du moindre trou. Et leur façon inusitée de sautiller et de se tortiller en sifflotant témoignait d'une excitation extraordinaire. On en vit plusieurs, des plus gros et sans doute des plus âgés, se glisser dans l'intérieur de l'habitation. C'étaient les marieurs, détachés par le conseil des anciens, pour entamer les pourparlers avec Aiglé et ses parents. Ces derniers, ai-je besoin de vous le dire, opposèrent tout d'abord aux prétentions des envahisseurs un refus formel, dont la courtoisie ne masquait qu'à demi la terreur et surtout le dégoût qu'ils ressentaient. Mais la marée montante des siffleurs battait maintenant les portes et les fenêtres, et en fin de compte, il fallut accepter le fait brutal et s'incliner devant le droit du plus fort. Le oui fatal ne fut pas plus tôt prononcé que les serpents, s'emparant d'Aiglé, se pressaient comme un torrent vers la sortie. Les parents de la mariée, tout de même que ses frères et sœurs, s'abandonnèrent au plus vif désespoir. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire dans cette conjoncture, et ils n'en retirèrent qu'un maigre profit. Les serpents et leurs captives se dirigeaient vers la mer. Lorsque la troupe fut près du rivage, Aiglé aperçut un charmant cavalier qui paraissait l'attendre. Il s'approcha de la jeune fille chapeau bas et se fit reconnaître pour le serpent qui, quelques jours plus tôt, s'était glissé dans la manche de sa tunique. Après ses salutations, suivies de compliments de fort bon goût, toute la caravane prit place dans des embarcations qui attendaient sur le rivage et l'on cingla vers une île où le jeune ophidien possédait un château construit sous la vague. C'est là que fut célébré le mariage. La demeure du serpent n'était, comme lui-même et son entourage, que miroitement, splendeur et doux murmure. Les noces et leurs enchantements ne durèrent pas moins de 3 semaines, et je n'entreprendrai de décrire ni les excellentes choses que l'on y but et mangea, ni les ébats dont elles fournirent l'occasion à un peuple célèbre par la grâce et la variété de ses danses. La beauté des spectacles qui se déroulaient devant ses yeux atténuait dans une certaine mesure le chagrin de la petite épouse. La parfaite liberté dont elle jouissait exerçait sur son esprit un charme puissant. Le jour succéda au jour, la saison à la saison. Les souvenirs et les regrets s'effacèrent peu à peu de la mémoire de la reine. Elle oublia son enfance et ses parents. 9 années se passèrent de la sorte. Aiglée était maintenant mère de 4 enfants, 3 fils et 1 fille. Les fils s'appelaient Assuolas Chêne, Uosis Frêne, Bersas Bouleau. La fille, qui était la puînée, reçut le nom de Débrûlé Tremble. Un jour, son fils aîné, Assuolas, dit à Aiglée : « Petite maman, où sont vos parents ? Pourquoi n'allons-nous jamais les voir ?» Cette question réveilla dans le cœur de la jeune femme 1000 souvenirs des plus tendres. Une grande tristesse jeta son ombre sur son esprit. Elle se demanda si son père et sa mère étaient encore en vie, si ses frères et sœurs se souvenaient d'elle. Elle alla trouver son époux et le pria de la laisser retourner pour quelque temps dans son pays auprès des siens. Le serpent acquiesça fort gracieusement à son désir. « Rien n'est plus légitime ni plus aisé, répondit-il. Mais avant de te mettre en route, tu ferais bien de te conformer à nos usages et de filer la quenouille de soie que voici. » Toute joyeuse du succès de sa démarche, Aiglée se mit aussitôt au travail. Elle fila sans s'arrêter 3 jours et 3 nuits. Cependant, la quenouille ne diminuait point. Un doute affreux s'éleva dans l'esprit de la jeune femme. « La quenouille est sans doute enchantée, pensa-t-elle. On se moque de moi. Je suis la victime d'une cruelle supercherie. » Pleine d'inquiétude et de ressentiment, elle alla trouver une vieille qui habitait une cabane voisine du château. « Chère petite mère, lui dit-elle, ma fleurette bien-aimée, examinez, je vous prie, cette quenouille que je vous apporte et dites-moi comment il faut la filer. » La vieille prit ses besicles, approcha son long nez de la quenouille et prononça d'une petite voix aigre et chantante ces paroles. « 1, 2, 3, méfie-toi, méfie-toi. 4, 5, 6, hors d'ici, hors d'ici. 7, 8, 9, dans le feu, dans le feu. » Aiglée courut tout d'une haleine à la maison, alluma un grand feu dans le four et y jeta la quenouille. La flamme prit aussitôt l'aspect d'un énorme crapaud dont les pustules se mirent à sécréter du plus beau fil de soie. Transportée de joie, la jeune femme frappe à la porte de son mari. Celui-ci la complimente de son ouvrage et va tirer de dessous un escabeau une paire de gros souliers tout en fer. « Et maintenant, ma toute belle, faites-moi le plaisir de chausser ces brodequins. Dès qu'ils seront usés, vous vous mettrez en route pour rendre visite à vos parents. » Aiglée, le cœur gros, emprisonna ses pieds dans les lourds sabots, traîna nuit et jour la semelle, usa plancher et pavé à force d'y frotter ses chaussons. Mais ceux-ci résistaient à toutes ses opérations et faisaient mine de vouloir narguer les siècles des siècles. La malheureuse se souvint de la vieille et retourna à sa cabane. La sorcière compta cette fois jusqu'à 13 et lui ordonna de jeter les sabots dans la braise de son voisin Blaise le forgeron. Aiglée suivit son conseil. mordu par le feu, les sabots de fer s'usèrent en l'espace de 3 jours. La jeune épouse, pieds nus et ses chaussons sans semelles à la main, se présenta pour la 3e fois à la porte du serpent. « Ah, merveille !» s'écrie celui-ci. « Il ne te reste plus à présent qu'à faire cuire les petits pâtés de lièvre. » Mais le rusé reptile avait fait disparaître de la maison jusqu'au dernier ustensile de cuisine. Et Aigle se trouva, une fois de plus, dans une situation qui ne semblait offrir aucune issue. La sorcière, cependant, en découvrit une. « Avec ce qui te reste de ta dernière cuisson, tu boucheras les trous du tamis. Transformé en pétrin, il ne laissera plus passer l'eau, et tu y prépareras ta pâte. » Bénissant la puissante et serviable sorcière, la jeune femme, suivie de ses enfants chargés de pâté, se dirige vers la demeure de ses parents. Le serpent accompagna sa famille jusqu'à la mer en recommandant à Aigle de ne pas demeurer plus de 9 jours chez les siens. Sur ton chemin de retour, tu auras bien soin, en approchant du rivage, de ne garder auprès de toi que les enfants et de renvoyer ton escorte si l'on t'en donne une. Après quoi, tu prononceras les paroles suivantes. Ô serpent, serpenteau, serpentelet, si vous êtes vif, l'écume est de lait. Ô serpentelet, serpenteau, serpent, si vous êtes mort, l'écume est de sang. Et vous autres, enfants, ajouta-t-il, rappelez-vous qu'il vous est absolument défendu de faire connaître cette incantation à qui que ce soit. Je n'entreprendrai pas de décrire l'accueil que l'on fit à Aigle dans sa maison natale. La joie qui y régnait eut tout fait d'attirer tous les voisins, et ce ne furent qu'exclamations, félicitations et interrogations sur sa vie chez les serpents. Et dès le premier jour, comme bien on pense, les parents d'Aigle ainsi que ses frères et sœurs se réunirent en conseil de famille pour examiner les moyens de la garder pour toujours auprès d'eux. Ayant eu vent de l'incantation destinée à attirer le serpent vers le rivage de la mer, ils n'eurent point de cesse que la formule n'en fût parvenue à leur connaissance. À cet effet, ils s'adressèrent tout d'abord au fils aîné, Assuolas. Mais ni prières ni menaces ne purent avoir raison de son mutisme obstiné. Ils n'en purent obtenir qu'une promesse de ne point révéler leur tentative à sa mère. La seconde attaque fut dirigée contre Uosis, la troisième contre Bersas. Les deux jeunes gens firent preuve, en l'occurrence, de la même discrétion que leur frère aîné. Mais il en alla tout autrement avec la fille Drébulé, qui, pleine de vaillance au début de l'interrogatoire, fut saisie d'un tremblement violent à l'apparition des verges qui lui étaient destinées. Et l'instant d'après, elle révélait jusqu'à la dernière syllabe de l'incantation pour échapper au supplice. Armés de la toute-puissante formule, les 12 frères font hâte vers le rivage. Ô serpent, serpenteau, serpentelet, si vous êtes vif, l'écume est de lait. Ô serpentelet, serpenteau, serpent, si vous êtes mort, l'écume est de sang. Le serpent sort sa belle tête de l'eau, nage à perdre haleine. Le voilà sur le sable. Les 12 solides gaillards se jettent sur leur beau-frère et l'assomment. Après quoi, tout fiers de leur ouvrage, ils s'en retournent à la maison sans souffler mot à âme qui vive de toute cette affaire. Les 9 jours écoulés, Aigle fait ses adieux à la famille et se dirige vers la mer. Ô serpent, serpenteau, serpentelet, si vous êtes vif, l'écume est de lait. Ô serpentelet, serpenteau, serpent, si vous êtes mort, L'écume est de sang. L'écume est de sang. Le dernier mot de l'incantation était à peine prononcé que toute la mer s'enflait avec violence dans un rouge bouillonnement, tandis que de ses profondeurs montait la voix de l'époux serpent. Les 12 frères armés de faux m'ont oxy, moi, pauvre serpenteau. C'est par notre fille Drébulée que le secret leur fut révélé. Par Drébulée, oui, par Drébulée, la mieux aimée et la plus choyée. Aiglé éclata en sanglots et se lamenta longtemps. Puis, se tournant vers Drébulée, « Fille, n'ai-je pas raison que t'ensemble ? Prends racine et trembleuse devient tremble. Ô ingrate, tu n'as guère été sage. Reste ici, tout seul, arbre malheureux, avec le vent qui dénoue tes cheveux et la pluie qui coule sur ton visage. » Et, avant de jeter elle-même en terre ses racines, elle adresse ces paroles à ses fils. « Vivez, joyeux, enfants, arbre pur, arbre saint, aimé du cœur d'aiglé, le funèbre sapin. » Aujourd'hui encore, malgré tant et tant de millénaires écoulés, Assiola se chêne, eux aussi se frêne, et Bersas Bouleau sont les arbres les plus puissants, les plus généreux et les plus loyaux de la terre. Et Drébulée tremble, tremble au moindre vent. Que la plus douce brise se lève, voyez, elle tremble, hélas, elle tremble, et tremble, et tremble.